Pour terminer l'après-midi, nous vous proposons dans un premier temps que les rapporteurs qui ont été choisis dans chacun des groupes, dans le groupe premier degré, je crois qu'il y a deux personnes qui ont été volontaires pour rapporter une synthèse des travaux qui ont été conduits. Donc on va peut-être commencer par le groupe premier degré. Pendant ce temps-là, au niveau du second degré et dans chacun des sous-groupes collège et lycée, vous rassemblerez vos idées pour pouvoir faire bénéficier l'ensemble des participants d'une synthèse de vos travaux.
Alors, évidemment, c'est un peu compliqué à trouver, mais il suffit de taper EducMath, ENSdeLyon.fr. Donc, c'est notre équipe qui rassemblait 9 équipes académiques d'IREM. Je ne sais plus si elles sont là. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, environ 80 personnes appartenant au groupe didactique des IREM d'Aix-Marseille, Bordeaux, Clermont, Dijon, Montpellier, Nice et Poitiers. Et une équipe d'UFM, celle de Toulouse, de l'UFM Midi-Pyrénées. En fait, comme vous voyez, durée de la recherche était septembre 2008 à septembre 2011. En fait, on a commencé en 2005 et on continue encore. Bon, donc c'est parce que le site est en friche. Il y avait donc une présentation des textes fondateurs. Donc là, il y a un lien, il suffit de cliquer. Et, bon, ça définit ce qu'on voulait faire. Les équipes. Et puis après, il y a les domaines. Donc les domaines, ça va être nombre et calcul, puisque ça s'appelle comme ça au collège, géométrie, et puis gestion des données, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. Donc ici, si on rentre dans le domaine, vous avez collège, organisation et gestion des données, nombre et calcul, géométrie, grandeur et mesure, seconde, statistique, calcul et fonction, géométrie, première S. On s'est arrêté à la première S. Alors, par exemple, bon, je ne vais pas aller en première S pour montrer, par exemple, ici au collège, géométrie. Bon, et vous voyez qu'il y a un ensemble de textes. Pourquoi étudier la géométrie ? Par le groupe de Poitiers, le théorème de Thalès en quatrième, on en parlait tout à l'heure, par le groupe de Marseille, le cosinus en quatrième par le groupe de Bordeaux, les triangles en cinquième, etc. Donc, il y a une arborescence qu'il faut explorer. Et on a, alors je ne sais pas, je vais prendre, tiens, ce texte-là, construction de triangle en cinquième. Voilà. Et vous avez un document qui fait, je ne sais pas combien, 10 pages, vers un autre type de processus d'étude. Et donc, on a un extrait du programme officiel, puisqu'on a dit qu'on se calait sur le programme, qu'on n'en débordait pas, et un exemple d'activité d'étude et de recherche. Voilà ici une question: déterminer la longueur du segment AM. Le point A et le point M ont sauté en PDF, mais peut-être qu'ils existent en doc, et on explique ce qu'on a proposé aux élèves et ce qui s'est passé. Comment déterminer ? Alors évidemment, on arrive à comment déterminer un triangle pour pouvoir construire un superposable à un triangle donné, bon, etc. Et là, on rentre dans les cas d'égalité des triangles qui ne sont plus désignés sous cette forme-là, mais qui sont encore au programme de 5e sous la forme construire un triangle connaissant des angles et des longueurs. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un petit peu comme ça. Voilà. Et là, vous avez des sous-questions. Sur une feuille posée sur le bureau, j'ai dessiné un triangle dont les côtés mesurent 9,5 cm, 8 cm et 6,5. Sans te déplacer, peux-tu trouver combien mesurent les angles de ce triangle ? Voilà. Ainsi de suite. Bon, ça continue comme ça, il faut prendre connaissance des choses et on arrive à trouver des cas curieux d'égalité, des cas d'égalité des triangles assez curieux selon les longueurs des côtés, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est assez rigolo. Voilà, bon, ça continue comme ça. Alors voilà, c'est ce cas-là, Robert, hein,
c'est,
ou...
c'est le cas où l'ange est opposé à...
Voilà. Une égalité triangulaire après. Donc voilà, ça déroule un bout du programme de géométrie de 5e, avec bon, les cas d'égalité et la constructibilité des triangles selon les longueurs, la somme des angles après. Bon, et ainsi de suite. Est-ce que le rapporteur de
la... Les deux rapporteurs sont là, les deux rapportrices. Bah, vous faites un compte rendu.
Ça marche.
Après avoir situé un peu situé le thème de la le thème d'entrée et une synthèse des discussions après.
Ça marche. Alors donc en fait on a repris la situation du jeu des trésors qu'on a vu donc ce matin et donc on a vu plus en détail les cinq phases. Donc je vais les reprendre rapidement. Donc ces grandes sections, voilà, c'est en maternelle. Le jeu de nomination, donc les élèves constituent une collection de 35 objets au fur et à mesure. C'est un projet sur l'année, donc là ça prend entre 15 et 21 séances. La phase 2, c'est le jeu à deux objets, jeu de Kim. Donc on montre des objets, on les cache et ils essayent de les retrouver le lendemain. Troisième phase, le jeu des listes. Donc là, on sélectionne 12 objets à trouver. Et là, donc, on dépasse en fait la capacité de mémorisation d'objets et on crée la nécessité donc, de produire une liste pour s'en souvenir. La phase 4, le jeu de communication. Donc là, l'élève fait décoder une liste de 3 objets par un autre. Et le binôme ne gagne, il me semble, que si il réussit. Enfin, c'est de la coopération. Et la dernière phase, le jeu de validation, c'est se mettre d'accord sur un symbole unique capable de désigner sans équivoque un objet précis afin de gagner à tous les coups. Donc on a repris ces situations-là, ces phases-là, et on a essayé de dégager les savoirs mathématiques donc derrière, et on a eu des difficultés à voir voilà, qu'est-ce qui est mathématique dans ces situations-là, ces phases-là. Avec l'objectif donc, qu'on a dégagé petit à petit, en fait, qui était de prendre conscience que la liste, c'est la réponse au problème de mémorisation des éléments d'une collection. Voilà, c'était partir de ça. Et donc ma collègue a pris des notes sur les savoirs mathématiques qu'on a eu du mal à retrouver. Voilà, café débat.
Oui, parce que l'idée, c'était quand même de mettre en résonance donc, ce qui était proposé et les contenus mathématiques. Alors, dans un premier temps, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un travail de connaissance affective des objets de la liste, puisque ce sont les élèves qui vont apporter et choisir les objets. Il y avait donc ensuite un travail d'inventaire des objets, et l'ensemble de ces objets constituait une collection. Donc, une notion mathématique importante. Et enfin, on arrivait, et c'est là où c'était pas si évident que ça, que... Le fait de faire une liste, c'était le fondement de tout dénombrement. C'est une manière... Donc là, on a parlé de cardinal, de... d'isomorphisme.
De correspondance terme à terme.
De correspondance terme à terme. Non, mais voilà, c'était pas si simple. Et en fait... Voilà, on s'est dit aussi qu'il y avait donc la rencontre avec la nécessité de produire des traces dans la dernière phase qui était convenue et reconnue par tous. Alors, il s'est posé la question du comment on évalue ce rapport au nombre qui se construit dans la nécessité de faire une liste. Et donc, on a conclu qu'on avait ici un processus très long, puisque on le commence en janvier et que les séances vont se finir au mois de juin. Donc c'est tout un rapport aux mathématiques qui est construit et que c'est pas forcément, c'est une vraie prise de conscience du nombre et que c'est, tout n'est pas forcément évaluable. Après je sais pas, les autres peuvent peut-être compléter.
Oui.
Parce que je pense que...
Ben, merci.
Ouais.
Alors il y avait d'autres personnes dans ce groupe, si vous souhaitez rajouter.
Plus si tu l'as dit, mais on a parlé un petit moment aussi d'énumération comme connaissance préalable à la construction du nombre.
Je suis pas dans votre groupe, du coup, peut-être j'ai pas compris le problème, mais je vois pas le nombre, j'arrive pas à le concevoir ce nombre. Pour moi, j'ai l'impression qu'en petite section, moyenne section, on travaille sur deux aspects du nombre, l'aspect ordinal et cardinal, et je vois ni l'un ni l'autre. Alors, peut-être que les objets doivent être rangés dans une manière bien précise et que le premier, le deuxième, le troisième peut apparaître, mais je vois, et en tout cas, le cardinal, je vois pas, et là, l'ordinal, je le vois pas non plus, mais peut-être vous pouvez m'éclairer. Et le avant, c'est quel niveau? C'était parce que j'ai entendu grande section, non? Parce que grande section, c'est déjà passé. En petite section, je comprends peut-être, mais en grande section, tout ça, c'est déjà passé. Les objectifs de là, c'est que chaque objet dans la collection représenté par un symbole.
Mais alors, il y a quelque chose qui est franchement pas clair, parce que quel est l'objectif de la séance là? S'ils sont censés être tous différents, ça voudra dire que clairement l'objectif c'est pas vraiment d'attribuer une valeur numérique à la liste qu'on met à part, mais plutôt de dire bon, on nomme, on fait comme Adam dans le paradis terrestre, hein, on dit bon ben, toi tu t'appelleras cheval, toi tu t'appelleras comme ça, toi tu t'appelleras comme ça, et à la fin pour être sûr qu'on pourra dire il manque celui-ci, il manque celui-là, il manque celui-ci, mais qu'il en manque 12, 40, 50 ou 1000, ils s'en foutent.
Non, le 12 n'intervient que parce qu'on ne peut pas se souvenir de 12 objets.
Non, mais j'ai
un seul élève ne peut pas se souvenir de 12. Ce n'est pas pour dénombrer 12. Simplement pour faire un saut entre la situation où il y a 2 ou 3 objets sont retirés et une situation où il y a 12 objets où il va falloir mettre en place une autre technique pour pouvoir se souvenir des objets qui ont été retirés.
Oui, je comprends bien, mais ça veut bien dire donc à ce moment-là que la valeur numérique n'a pas d'importance, sauf qu'elle doit être
assez grosse. Alors, la valeur, ce que vous disiez, ce que vous expliquez les collègues, c'est que c'est un travail préalable au dénombrement. Mais ce qui est travaillé, c'est plus un travail sur l'énumération, laquelle énumération est rarement travaillée. C'est-à-dire énumération d'une collection. Lister les objets d'une collection en déterminant des éléments caractéristiques de chacun des objets. Et dans ce travail-là, il y a à la fois le travail de définition de la collection et de définition de l'appartenance à une collection. Le dénombrement de la collection, au sens compter le nombre d'objets de la collection, c'est pas ça qui est cherché.
Je voudrais faire simplement une petite remarque empirique. Je te trouve très optimiste quand tu dis que c'est réglé en petite section ou travaillé. Je te trouve... Voilà. Donc, on pourrait dire ça. Maintenant, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, on n'est pas dans une proposition universelle, mais ce que l'on a tenté de montrer dans ce dispositif, c'est qu'il était possible, dès les premiers apprentissages mathématiques, de faire rencontrer la nécessité de faire rencontrer effectivement la nécessité de l'énumération pour dénombrer. Et donc on construit toute une démarche autour de cette nécessité d'énumération. Effectivement, le subitizing, etc. Mais au-delà de 5, ça ne marche pas. Hein, d'accord? Donc, non, mais attends. Au-delà de 5, ça ne marche pas. Mais Fischer, notamment, dans le chemin du nombre, montre qu'au-delà de 5, ça ne marche pas. Donc, il y a un travail sur la rencontre avec cette nécessité qui ne va pas de soi. Et au-delà de ça, il y a aussi un travail dans ce dispositif sur, une première initiation culturelle. C'est-à-dire une initiation culturelle avec le monde du nombre et des pratiques autour du nombre dont on construit les fondements. Des fondements dont on voit cruellement par la suite qu'ils font défaut, voire le travail sur la combinatoire et les problèmes d'énumération qu'ils posent à nos chers lycéens et qui nécessitent là aussi un travail de la part des professeurs. Donc nous ne nous trompons pas sur les résultats en termes de compétences, et sur le contenu que l'on cherche à travailler. Il y a un contexte de travail dirigé qui montre qu'on peut rencontrer, on peut organiser la rencontre avec une nécessité d'un fondement dans le dénombrement qui est l'énumération. Et un travail profond, effectif, avec tous les élèves, si possible, et avec la direction de ce travail-là par le professeur. Disant ça, on n'a pas du tout eu le temps ni les moyens de travailler sur comment des professeurs, face à cette proposition de travail, réalisent la mise en œuvre, simplement, si j'ose dire, dans un premier temps, de comment on règle la convention des signes que l'on retient, les traces que l'on retient, comment. Est-ce qu'on prend le temps d'en éprouver les limites? C'est-à-dire, je travaille avec une classe et ma convention, je la propose à une classe qui n'en est pas. Tout ça, on n'a pas envisagé, effectivement. Et pour être très franc, on n'a pas de réponse universelle à ça. On a des propositions, mais ce qu'on essaye de faire, d'initier dans ce travail-là, c'est une réflexion profonde sur quels sont les enjeux en termes de contenu mathématique, ici, et quelles sont les organisations, les dispositions didactiques qui vont aller dans le bon sens ou ne pas aller dans le bon sens. Et ça, c'est ouvert. On n'en sait vraiment rien. Et on ne sait pas non plus ce qu'il faut dire aux professeurs pour qu'ils s'engagent dans ce dispositif-là lorsqu'on leur donne les documents, a priori, qui leur permettraient de jouer ça. On a un gros travail à faire là-dessus. Mais l'optimisme, vraiment, là, je t'assure, viens un petit peu en ZEP à Marseille et tu verras que même ailleurs, même au CP, ce travail, mais ce que je veux dire, ce travail profond sur l'énumération a été déjà montré comme étant très important, mais on le montre comme étant de plus en plus important.
Oui, je ne pense pas que le problème soit réglé en grande section. Pensez à ce qui se passe, Serge l'évoquait tout à l'heure, pensez à ce qui se passe lorsqu'il s'agit de dénombrer une collection d'objets qui sont définis par deux critères, prenant chacun plusieurs valeurs. C'est la situation d'entrée dans beaucoup d'ouvrages de la multiplication. Le premier travail qu'il faut faire, c'est énumérer la collection. Et le travail d'énumération de la collection, qui passe en général par un tableau à double entrée, est un vrai travail dont on péjore très souvent l'importance par rapport à l'introduction de la multiplication et par rapport à la description des situations que la multiplication permet de modéliser. Donc il y a là quelque chose qui est très important, l'énumération d'une collection est sous-jacente à un tas de problèmes de dénombrement qui courent au-delà du bac. Hein. D'autres choses réactions dans ce groupe, des réactions par rapport à ce compte rendu. Bien, ben on va donner la parole au groupe Collège-Lycée.
On a commencé par prendre connaissance des documents officiels relatifs à la démarche d'investigation en mathématiques, à l'école primaire, au collège, en lycée professionnel. Pour l'instant, on n'a rien sur le lycée d'enseignement général et technologique. Donc dans ces textes, certains mots nous ont interpellés. On s'est demandé ce que l'on pouvait entendre par activité des élèves. On a trouvé, alors je parle pour l'école primaire, on a commencé par ça. Hein. On a trouvé que les textes étaient très ambitieux pour des petites classes. On s'est demandé ce qu'était faire des mathématiques à l'école primaire. Qu'est-ce que cela signifie finalement ? Les textes donnent pas mal d'indications sur l'investigation mathématique. Donc on retrouve tout ça, je ne vais peut-être pas détailler. Ensuite, en 2008, la démarche apparaît de façon plus feutrée dans les programmes de l'école primaire. Dans le programme de collège, on a clairement un paragraphe sur la démarche d'investigation. on s'est demandé si tout pouvait se faire en démarche d'investigation. Et l'argumentation dans tout ça aussi. On s'est posé la question parce qu'on parlait pas mal de conjectures, d'expérimentation et l'argumentation. On s'est demandé également s'il n'y avait pas une volonté d'uniformiser toutes les sciences. Ensuite, pour les lycées professionnels, on retrouve pas mal ce qui a été exposé dans la partie collège. Voilà, donc on a fait le tour des documents officiels. Ensuite, on a commencé à regarder des documents concernant le produit scalaire, des activités issues de livres, je crois, et on en parlera demain.
Merci beaucoup, merci comme ça, pied levé, c'était très bien, merci.
Alors, avant de passer aux réactions par rapport à ça, il y a peut-être des compléments à apporter à ce compte-rendu.
Une grande question, les mathématiques sont-elles expérimentales? Bien sûr, ça c'est une question qu'on a soulevée et à laquelle on n'a pas apporté de réponse, si ça vous étonne. Mais...
Non, donc sur la démarche d'investigation qui est partout maintenant, nous en lycée pro là depuis 2009, tu s'est toujours dit quand même que le plus souvent cette démarche-là doit être faite en petits groupes. Et du coup, on se retrouve devant une réalité où on a rarement des petits groupes. Quoi. Parce que 24 en lycée pro, c'est des gros groupes. Et je sais pas, moi en primaire, on peut essayer de voir. On se demandait, elle est où la notion de petit groupe, quoi. 5, 10, 12, voilà. C'est une question. C'est comme on s'est interrogé sur l'activité des élèves doit être la règle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que le prof est absent ou il guide seulement l'activité des... Il y a des choses dans ces textes, si vous voulez, qui sont assez floues, volontairement, à mon sens. Enfin, on en a discuté, ça a été débattu. Hein. Il y a des choses derrière un peu plus socio-économiques, on va dire. Ça n'a pas été par hasard que c'est venu tout ça. Donc par travail en petit groupe, bien sûr. Mais bon, après, quels moyens on a pour faire ça? On a parlé de l'informatique aussi. Parce que expérimenter en maths, c'est pas comme expérience en sciences physiques. En maths, expérimenter, aujourd'hui, on a les TIS, on a l'informatique. On s'aperçoit que souvent, on n'a pas les moyens réellement d'avoir un poste par élève. Donc expliquez-moi comment vous expérimentez avec l'autonomie de l'élève. Avec, si vous voulez, il y a beaucoup de... On en a parlé un peu de la novlangue, de quelque chose de très... Yaka Faucon, c'est la meilleure méthode, la démarche d'investigation. Certes, c'est très attrayant, mais après, il faut regarder ce qu'on a en face pour faire, quoi.
En fait, en élémentaire, souvent, déjà maternelle, c'est beaucoup les ateliers, hein, mais est-ce que vraiment les élèves travaillent en groupe? Parfois, on se questionne. Ils sont en atelier, mais est-ce que vraiment il y a un travail de groupe? Et puis, pourquoi on met le travail de groupe en place? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Qu'est-ce que ça apporte de plus aux élèves que d'être tout seul? Donc là, en fait, il y a toutes les interactions verbales qui peuvent y avoir, l'argumentation, qu'est-ce qu'on appelle argumentation en primaire, en secondaire, etc. Et donc, ce qui fait que la question au primaire se pose aussi, c'est-à-dire qu'on nous dit on entend, c'est bien de travailler en groupe, mais parfois, l'exemple des rallyes qu'on a vu ce matin, ils doivent rendre un bulletin réponse pour toute la classe. Et on se questionnait avec beaucoup de collègues à dire, alors est-ce que c'est plus intéressant de produire un bulletin réponse pour toute la classe? Et si je les mets en petits groupes de 5 et qu'ils doivent rendre un bulletin réponse, est-ce qu'ils mettent en jeu les mêmes... le même travail, est-ce qu'on travaille la même chose, est-ce que ça apporte la même chose? Et si je les mets par deux, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Et voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose pour le travail de groupe. Voilà, donc c'était juste un constat de ce qui peut se passer en primaire. Mais voilà, s'il y a des collègues de primaire qui veulent corriger ou dire d'autres choses, voilà.
Alors...
Je regrette de ne pas être allé avec vous. J'étais très bien avec le collège-lycée, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, comme je suis plus près des terminales que du primaire, ça me paraissait plus naturel. Mais avant de sévir à l'université, j'ai sévi aussi à l'école normale et à l'UFM. Et à ce titre-là, j'ai fait des interventions dans les classes de maternelle. Donc ça, j'en ai gardé un souvenir tout à fait ébloui, on va dire. Ouais, c'était vraiment super. Même si j'étais très mauvais, mais c'est pas grave. En tout cas, c'était un beau souvenir. Donc ça m'aurait bien plu également d'aller causer avec vous aussi, mais on ne peut pas être partout à la fois. Et en tout cas, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est les différentes significations qu'on peut mettre sous le sens faire des mathématiques, justement. Je ne suis pas tout à fait certain qu'on mette, nous tous dans la salle, la même signification sous le sens faire des mathématiques, surtout quand on doit faire ça en petite section ou en... troisième ou en terminale, voilà. Donc Justement, ça, ce que vous répondriez, vous collègues de primaire, ça m'intéresse énormément.
Alors, qu'est-ce que c'est que faire des mathématiques en maternelle, en primaire? Est-ce que quelqu'un...
Bon, je vous signale que vous pouvez acheter un ouvrage qui s'appelle « Faire des mathématiques en classe, point d'interrogation qui se trouve juste de l'autre côté de... ici à la librairie. Voilà, c'était un coup de pub.
Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Bien, ben peut-être que la réponse viendra au cours du stage ou plus tard. Donc, par rapport au compte rendu du groupe collège-lycée, est-ce que vous avez des réactions, des questions à poser?
Bonjour tout le monde, c'est Madame Eraden d'Algérie. Donc, je vais apporter un petit témoignage, peut-être. Oui, je suis la présidente de l'Association algérienne pour le développement de l'enseignement des mathématiques et technologies de l'information. C'est une très jeune association, elle a une année. Je suis parmi les membres fondateurs de cette association. On essaie d'apporter un plus pour l'enseignement des mathématiques en Algérie. On a engagé une équipe pendant le mois de juillet et c'est comme ça que j'ai su qu'il y a la formation de l'effet. L'université d'été de l'association se basait sur la démarche d'investigation dans l'enseignement des mathématiques. Donc on l'a fait en mois de juillet à Bidjaya, en Algérie. Mais je voulais apporter un témoignage sur la démarche d'investigation parce que ma thèse, j'ai soutenu ma thèse le 25 février 2012. C'était sur le problème ouvert en mathématiques, donc ça rapproche de très près la démarche d'investigation. Donc j'ai fait des expériences avec mes propres élèves au collège. Donc il y a des questions de notre collègue là qui ont attiré mon attention sur le travail de groupe, quel est le groupe. Bon, j'ai des classes de 30 élèves, en Algérie on a entre 30 et 33 dans les classes. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle façon de travailler les mathématiques qui n'est pas vraiment acceptée par nos collègues, nos propres collègues, donc il faut y aller doucement. Donc je fais des groupes de 4 et j'ai remarqué à chaque fois que je dépasse, donc, des fois on a des classes que je ne peux pas partager en 4. Donc j'ai des groupes de 5, dès que ça dépasse les 4, là où il y a 5, ça déborde, ça devient plus sérieux, c'est 4, c'est l'idéal. 3, 4, c'est l'idéal. Plus que 2 et moins de 5. C'est ma propre expérience avec notre société. Ça veut dire vraiment, c'est spécifique à l'Algérie. Ça veut dire, je dis, par rapport à nos élèves. Et je ne vous cache pas que c'est une très belle expérience que j'ai vécue avec mes propres élèves. C'est de les voir travailler comme ça en groupe. À chercher, à faire des hypothèses, à conjecturer et faire la trace écrite me réjouit parce que c'est la plus importante pour moi. Des fois, je dis, c'est rédiger et dire avec un écrit ce qu'on pense mathématiquement, c'est difficile pour un enfant de 13 ans, 14 ans. Donc, on faisait des affiches sur un tableau comme ça et puis on discutait et on voyait l'acharnement des élèves pour défendre leurs hypothèses. Chaque groupe essaye de défendre ses idées. Mais les premiers problèmes que j'avais, c'est beaucoup plus le rapport de la classe par rapport aux bons élèves. Quand c'est un groupe où il y a un élève très bon, quand il fait une hypothèse, il essaye de valider, c'est tout le monde qui est d'accord parce que c'est un bon élève. Et là, vraiment, c'est un énorme travail pour changer cette mentalité. Donc, j'ai trouvé aussi que, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps pour instaurer cette méthode. Donc, il y a aussi la résistance des autres collègues parce qu'ils n'acceptent pas d'entendre du chahut dans la classe. Ils sont juste à côté. C'est le cours magistral chez nous jusqu'à maintenant. Donc, c'est une révolution que je fais, mais c'est beau de voir les enfants comme ça. Franchement, c'est magnifique. Et je pense vraiment, il faut vraiment y aller vers cette façon de travailler les mathématiques. Ça va donner un plus. Les élèves, ils aiment maintenant les maths. Ils attendent ces séances avec impatience. C'est quand on va faire le travail de groupe. C'est la première question. C'est aujourd'hui qu'on va faire le travail de groupe. Alors, quand je ramène mes grandes feuilles avec les marqueurs, ils sont tellement contents que tout le monde est présent. Il n'y avait aucun absent dans mon cours de maths. Là, je vous garantis, depuis quelques temps, il n'y a plus d'absence. C'est la grève quand ce n'est pas moi qui suis la classe après. Franchement, ça donne une autre image en mathématiques. C'est vrai que peut-être c'est spécifique à l'Algérie, ou c'est nouveau en Algérie, mais je ne sais pas ce qui se passe exactement ici. Mais je ne vous cache pas que c'est une idée qui m'a donné un plus à avoir des liens un peu amicaux avec mes élèves. Je les écoute. Avant, c'est moi qui fais le cours. J'ai 23 ans de service. Donc, c'est moi qui fais le cours. C'est, on m'écoute et puis vous appliquez ce que je dis. Il n'y a rien à côté. Mais là, je change de méthode. Je découvre le plaisir de faire des mathématiques et je sens que les élèves aiment maintenant faire les mathématiques. Ils ont moins peur, ils s'expriment. Donc, vraiment, je trouve que c'est magnifique. Merci.
Merci pour ce témoignage.
Oui. Alors, d'autres réactions ?
Bon, enfin, moi, je peux dire quand même que dans nos expérimentations en France, à Marseille, aussi bien dans des collèges ZEP que ZEP, donc ces zones d'éducation prioritaire difficiles, que dans des collèges beaucoup plus faciles, on peut instaurer des moments de travail en petits groupes de 4. Bon, si j'ai le temps, je vous montrerai des productions d'élèves de ZEP qui écrivent en français pas très bien, mais sur le début du calcul algébrique en cinquième, et où, avec des recherches et avec des propositions de réponses assez variées et assez riches mathématiquement. Voilà. Donc ça peut fonctionner, mais comme disait la collègue tout à l'heure du primaire, qui rapportait, en fait il faut s'interroger sur la fonction du travail de groupe, je pense. À quel moment et pour faire quoi, hein. Et puis, il y a ensuite des moments où on remet tout ensemble, etc. Mais quand on arrive à faire des groupes hétérogènes, par quatre, très souvent, les élèves faibles commencent à accrocher. Ouais. Et ils se mettent à travailler. Alors bon, il y en a toujours qui se mettent à l'écart, hein. Bon, là, la réussite à 100% dans le domaine de l'enseignement, ça n'existe pas, hein, bien sûr. Mais bon, on voit ces phénomènes-là se produire. Et pour peu que le rapporteur du groupe désigné par le professeur soit un élève faible, alors là, il est obligé de s'investir dans la recherche de ce qui a été fait par le groupe. Sinon, il va se faire engueuler par ses petits camarades. Voilà. Mais vous vouliez rajouter quelque chose ?
Justement, pour les élèves faibles, c'est peut-être exceptionnel. Mais moi, j'ai découvert, pendant le travail de groupe, deux élèves qui n'arrivaient pas à décrocher en mathématiques, ils n'arrivaient pas à avoir un 5-6 en maths, mais qui étaient excellents pendant le travail de groupe. Il fallait voir comment ils s'exprimaient, comment ils défendaient leur groupe. C'est question d'honneur, question de... Je ne sais pas ce qui les a vraiment boostés. Et maintenant, franchement, on a fait un devoir récemment, après un problème comme ça d'investigation. Les deux élèves arrivent maintenant à avoir la moyenne en mathématiques. Ça veut dire qu'ils s'intéressent. C'est ça qui les a attirés peut-être, je ne sais pas. Ces deux élèves qui n'arrivaient même pas à avoir des fois 5. C'est difficile de décrocher un 5 avec ces deux élèves. Mais des fois, c'est des moments où ils ne se retrouvent pas. Parce qu'il n'est pas en face du prof. Vraiment, on sent que le prof fait peur. Des fois, avec quelques élèves, ils ne s'expriment pas. Même ils sont bons, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Mais dans des cadres comme ça, de groupe, j'ai vu des enfants, parce que moi, je suis à l'ICAR, ils sont en train de valider leur production, et ils sentent qu'ils sont en train de se parler. Et moi, je ne suis pas là. Et là, vraiment, on voit des choses qui ressortent. Et deux élèves, j'ai expérience avec deux élèves, franchement, c'est magnifique.
Oui, je crois qu'on rejoint la question que posait Robert ce matin à propos du rallye. Comment créer un contrat de travail qui fait que certains élèves qui ne rentrent pas dans le contrat classique ou qui attendent que les choses se passent. On a aussi clairement un certain nombre de classes où effectivement les élèves ils attendent la réponse que donnera le prof parce qu'ils savent qu'il la donnera. Mais effectivement, comment créer un contrat où les élèves puissent se mettre réellement à l'étude du problème qui leur est proposé. Ce que vous décrivez me fait penser qu'effectivement pour certains élèves, le travail de groupe tel que vous l'avez proposé a été l'occasion de se mettre à l'étude. Et une fois qu'ils sont mis à l'étude, ça peut peut-être enclencher d'autres mises à l'étude dans des situations plus classiques. Je crois que le cas Gaël, puisque tu l'as envoyé, le cas Gaël ?
C'est Jérôme Falda qui l'a envoyé.
Je crois que le cas Gaël qui a été décrit par Guy Brousseau, c'est la description d'une situation en individuel, là, où la personne qui fait la rééducation, qui en fait est Guy Brousseau, arrive à faire rentrer un élève qui ne rentrait pas justement dans l'étude, dans une étude réelle, et à le faire rentrer dans une démarche de recherche et d'investigation par rapport au problème qui est posé. Donc il y a effectivement tout un travail à faire sur les recherches de la mise en place de contrats permettant à l'élève de rentrer en contact avec les problèmes et de s'y atteler, de conduire des études. Alors, plus que de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un élève en activité ? Parce que moi, ça me paraît une question qui est... effectivement, on voudrait que les élèves soient actifs, mais est-ce qu'un élève est actif lorsqu'il écoute un cours et qu'il le copie ? Il l'écrit, hein ? Donc, est-ce qu'il est actif dans ces cas-là ? C'est comment faire pour que l'élève soit en contact avec le problème et s'attelle à la résolution de problème, réellement ? Comment créer ces conditions-là ?
Alors, bonjour à tous. En fait, je voulais juste parler parce que moi, j'ai peut-être une expérience un petit peu différente. Alors, je suis très jeune, hein, j'ai peu d'expérience quand même, mais donc je suis ni professeur ni rien. Je suis animatrice mathématique et bon, je suis professeur en cours particulier quand même. Et donc, du coup, sur la notion de contrat en particulier, c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors, j'ai fait des études de didactique, donc du coup, j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec en animation, en club de mathématiques par exemple, à mettre en place un contrat avec les élèves qui soit différent du contrat dont ils ont l'habitude avec leur professeur. C'est-à-dire que quand je leur dis mais allez-y, vous pouvez chercher, prenez du temps, c'est pas naturel du tout, hein. Ils sont vraiment plus d'abord dans l'attente de que moi je leur dise quelque chose, que moi je leur donne la réponse, et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de pas faire, quoi, que je m'interdis de faire, et c'est quelque chose qui est vraiment pas naturel pour eux, et ça on le sent, enfin moi je le sens vraiment tout de suite dans les clubs que je mène. Bon ben ils savent pas trop quoi faire, quoi. Ils sont un peu perdus quand ils se retrouvent devant un problème ouvert, et ils ont pas trop l'habitude, ils ont l'habitude d'une certaine classe de questions. D'accord, mais ils ont surtout l'habitude d'un contrat avec leur professeur qui est différent là. Moi, je leur donne pas la réponse à la fin de l'heure. S'ils l'ont pas trouvé, bah c'est pas grave. J'ai pas besoin de leur dire, de leur faire acquérir un savoir en fait. Et du coup, ça c'est quelque chose que eux ressentent. Et j'ai beaucoup de mal à mettre en place un contrat différent pour que eux commencent à chercher d'eux-mêmes en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile, mais qu'on arrive à force de temps en fait. Et je me demande comment dans les classes. C'est possible pour le professeur déjà, enfin deux choses, de prendre ce temps, parce que c'est avec un programme à tenir, c'est quelque chose qui moi me paraît assez difficile. Et deuxièmement, en fait, de mettre en place deux types de contrats différents, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire uniquement du travail de groupe, en fait, vous allez quand même à un moment donné institutionnaliser les savoirs qui ont été discutés pendant le travail de groupe. Mais du coup, là, c'est encore un contrat différent. Donc, c'est-à-dire que le professeur, lui, doit tenir deux positions différentes, quoi. Et ça, j'ai vraiment du mal à, moi, m'imaginer comment c'est possible de réaliser ça en classe. Et c'est vrai qu'avoir des clés pour se dire, à un moment donné, le professeur va être juste meneur d'une activité, d'une démarche d'investigation, d'un travail de groupe. Et à un moment donné, c'est quand même lui qui va porter l'institutionnalisation du savoir, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une difficulté, quoi, parce que du coup, moi, l'institutionnalisation dans des clubs ou dans des animations, c'est quelque chose que je passe un peu de côté, quoi. C'est vrai que, et du coup, au niveau des savoirs, je suis consciente que mes élèves acquièrent pas forcément grand chose et que c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais du coup, là, sur le professeur, je me pose vraiment beaucoup de questions. Voilà.
Merci. Je vais revenir sur ce travail de groupe qu'on peut pratiquer dans la démarche d'investigation, mais aussi dans d'autres domaines. dans les travaux qu'on peut mener en classe, je vais faire l'électron libre, je ne vais pas faire la pénible parce qu'après on va partir, on reviendra demain. Mais quel est, on peut se poser la question, ça m'intéresserait qu'on réfléchisse à une autre question, c'est souvent on pense que la démarche d'investigation va se passer quand on fait travailler les élèves en petits groupes, jusqu'à 4 élèves, alors tu peux dire c'est mieux s'il y en a 4, ou bon après il y a différentes écoles. Mais qu'en est-il de la recherche individuelle dans la démarche d'investigation ? Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que moi je suis dans une ex-équipe IREM rattachée en paire quand ça existait encore, et qu'on avait avec notre didacticienne adorée des discussions assez épiques sur la façon dont on allait amener les élèves à chercher dans l'ingénierie. Et Nadia, elle, c'était toujours, il cherche d'abord seul. Et donc, parfois, avec le collègue avec qui je travaillais, c'était pas comme ça qu'on envisageait la chose. On voulait faire travailler en binôme, et puis chaque fois, on développait des arguments qui étaient ceux de des petits enseignants associés à un didacticien. Voilà. Et en fait, elle nous a amenés, elle nous a obligés à les faire travailler de façon individuelle dans la première partie du travail. Et il s'avère que il est sorti des choses sacrément intéressantes. Et je ne suis pas certaine que si nous avions démarré ces situations problèmes, on a travaillé sur l'entrée dans l'algèbre, Pythagore et compagnie, sans avoir de façon préliminaire fait travailler les élèves individuellement pendant, au moins 10 minutes, si ce n'est 15, c'est long, hein, quand ils cherchent seuls. Hein. Et en fait, malgré ce qu'on peut imaginer, même s'il y a des élèves qui ont des difficultés ou qui ont des difficultés ou des lacunes, on se rend compte que dans cette phase-là, il se passe des choses chez l'élève, quel que soit son niveau, qui ne vont pas se passer s'ils sont en binôme ou ils travaillent 3 ou 4. Voilà. Donc si on a l'occasion de reparler de ça, ça m'intéresserait parce que finalement, on n'a pas toujours cette lecture-là. On a l'impression qu'on revient à un modèle ancien. Quand on dit vous cherchez seul, et en fait, je ne suis pas si sûre que ça. Voilà.
Sur le contrat, effectivement, c'est une autre manière d'enseigner les mathématiques, et donc les élèves ne sont pas accoutumés à cela, comme vous disiez. Donc il faut un certain temps avant d'installer ce type de travail ou de cours de mathématiques, et on l'a vu, on l'observe dans les collèges et les lycées qu'on va voir. C'est une rupture par rapport à l'ordinaire de l'enseignement des maths, et ça prend quand même, disons, jusqu'à à la rentrée des vacances de la Toussaint, au moins, pour que les élèves aient compris que avec monsieur un tel ou madame une telle, c'est comme ça que ça va se passer toute l'année. Bon. Et qu'il n'y a pas à discuter, ça sera comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un point assez important. Et Guy Brousseau disait vous savez qu'il avait monté une école, l'école Jules Le Michelet, qui était associée à l'IREM de Bordeaux, et qui était une école pour l'observation. Et donc, les ingénieries dont je parlais, rationnelles et décimaux, ou d'autres sur la géométrie, viennent de cette école primaire. Et ce qu'il disait, c'est que après, les élèves évidemment partent au collège. Et de temps en temps, il y avait des élèves qui revenaient voir les instituteurs, comme ça se fait, et qui disaient : alors, qu'est-ce que vous faites ? On fait plus de maths. Voilà. Bon.
Cela dit, pour revenir à la question que vous posiez. Au Corem, comme dans toute haute école primaire, il y avait des moments d'institutionnalisation. C'est-à-dire que le fait de faire travailler les élèves avec une certaine liberté de recherche n'annule pas l'idée d'avoir des intentions didactiques. Et c'est effectivement, disait Brousseau, du rôle et de la responsabilité du maître de mettre le doigt, de mettre en évidence les objets qui sont censés être appris à travers les situations dans lesquelles auxquelles les élèves ont été confrontés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils les donnent d'entrée de jeu, parce que si les donne d'entrée de jeu et tue la situation. Mais il faudra un moment ou un autre qu'il y ait prise de conscience par l'élève que le problème ouvert qu'il a résolu n'a pas été résolu pour ça, pour résoudre le problème, qu'il a été résolu dans un but didactique. Sinon, vous n'avez pas, enfin peut-être qu'en cours en particulier, vous n'avez pas d'intention didactique par rapport à l'avancée d'un programme, ce qui m'étonnerait. Si vous avez des intentions didactiques, il faudra à un moment ou un autre que l'élève prenne conscience que l'activité sur laquelle il s'est exercé, avec laquelle la situation avec laquelle il a été confronté, est une situation où il a appris quelque chose. Donc il faudra à un moment ou un autre qu'il y ait un moment d'institutionnalisation, ce qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que je comprends peut-être pas très bien l'histoire de deux positions, parce qu'en fait, la situation doit permettre de faire émerger justement l'objet de savoir, assez naturellement. C'est pas le maître qui, avec un coup de baguette magique, fait ressortir quelque chose qui ne serait pas ressorti.
Je ne sais pas si la façon dont tu poses le problème est la bonne. Mais je ne dis pas qu'elle est mauvaise non plus. Hein, mais je pense qu'il faut dissocier deux choses qui se cachent derrière ce que tu appelles position. On a eu un exemple il n'y a pas si longtemps de la façon dont les enfants de 3 ans, 4 ans apprennent à mettre leur manteau à l'école maternelle. En le posant par terre, en se mettant en face et en enfilant leur manteau. Autrement dit, voilà, le mode papillon, dit ma collègue d'à côté. Avant de parler de position, je pense qu'il y a peut-être une façon de penser la chose sur donner une existence aux techniques ou aux propositions des élèves. À partir du moment où on donne une existence en dehors de l'école, donc dans une institution autre, les élèves vont considérer comme un objet de l'institution ce qu'ils ont convoqué quand ils ont fabriqué la technique du papillon. Personne ne met la technique, s'habille de cette façon-là, et pour le coup, c'est pas étudié. Mais à partir du... Imagine le professeur qui va donner une existence institutionnelle à cet objet pour devenir un objet scolaire, et qui va lui-même mettre... son manteau de cette façon-là. Autrement dit, il va donner une existence institutionnelle à la proposition ou aux techniques inventées par les élèves. C'est de ça qu'il faut discuter, c'est-à-dire quelle existence on donne à ces différentes propositions, quelle écologie on leur... quelle écologie on constitue à cet endroit-là, et quelle pérennité on organise constituant cette écologie. La position, on verra. Mais comme en maths, existence.
Je voulais répondre à la collègue, parce que bon, moi j'ai eu la chance d'expérimenter pendant 3 ans, quand même 2 ans et demi, cette expérience. C'est vrai que comme... le collègue l'a dit, les premiers temps, il sortait de la séance problème ouvert en disant à leurs camarades qu'ils n'ont pas fait des mathématiques aujourd'hui. C'est pas des maths pour eux quand ils travaillent en groupe. Mais la position du professeur, c'est-à-dire l'image du prof, je pense que j'ai compris un peu votre question. C'est vrai que des fois, je suis le maître à bord, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis, c'est moi qui sais. Ils attendent que ce que je vais donner, bon, le cours magistral. Mais en même temps, je faisais des séances comme ça. C'est des séances un peu volées, on peut dire. On ne peut pas faire tout le programme comme ça. Je n'avais pas le droit déjà, parce que les institutions, les programmes... C'est vrai que dans les programmes algériens, il y a la démarche d'investigation. D'ailleurs, j'essaierai de vous envoyer une copie des programmes algériens, comme ça vous allez voir que vraiment ça existe, mais il n'y a aucune formation ni information là-dessus. Donc les profs ne savent même pas que la démarche d'investigation, c'est celle-ci. C'est de cette manière qu'il faut la faire. Donc, quand je faisais ça, les premiers temps, c'était difficile, parce que vraiment, les élèves ne veulent plus voir le prof qui donne des notions qui demandent de les appliquer et d'écrire, d'institutionnaliser. Mais à un certain moment, j'ai joué le jeu avec eux pour leur faire comprendre que c'est le programme comporte des séances où je serai maître à bord. C'est moi qui lance tout, c'est moi qui donne tout. Et il y a des moments où c'est à eux de faire, de donner, d'arriver au résultat. Pour le contrat, moi, c'est, tout simplement, j'ai fait un petit contrat. Je ne sais pas que ça va, si ça va marcher avec les élèves français. C'est que je faisais un petit chantage avec mes élèves. J'ai vu qu'ils adorent ces séances-là. Donc, voilà, pour les élèves qui n'aiment pas se mettre en activité, déjà, le groupe sera puni. Donc, la prochaine fois, il ne va pas participer à cette séance. Donc, tout le monde aime cette séance. Donc, soit... c'est à moi, à la dernière... à la fin, quand on va mettre les affiches et vous aurez le droit de défendre l'hypothèse que vous avez faite, c'est à moi de choisir celui qui va défendre l'hypothèse. C'est pas eux qui choisissent l'orateur. Donc, ils savent pas qui va monter l'un des quatre. Donc, même s'il y a un bon élève et un mauvais, le bon va faire tout pour transmettre au mauvais, pour si, en cas où c'est lui qui a été choisi, il va bien défendre le groupe et il ne sera pas puni pour l'autre séance. Bon, je trouve que c'est un peu dur, mais finalement, ça réussit. Le bon élève fait, explique, essaye vraiment de convaincre déjà au sein de son groupe avant de venir défendre l'hypothèse avec toute la classe, quoi. Donc, voilà.
Alors, en fait, ouais, du coup, pour... continuer avec ce qui avait soulevé Laura, en fait. Peut-être ce qui marche du coup dans l'expérience, dans ce que tu racontes, c'est que ça se passe en deux temps différents, deux séances différentes. Une séance où tu ne donnes pas de savoir, quoi. Et une séance où tu es prof. Donc c'est peut-être plus simple, effectivement, dans leur position, d'accord. C'est vraiment le fait que ce soit sur deux séances différentes, en fait, qui fait que ça marche.
Oui, donc deux choses. D'abord, dans ce que vous venez de dire, c'est les élèves qui s'enseignent. Qui enseigne aux autres. Bon, ça, c'était quand même des techniques qui existaient au 19e siècle, quand les élèves... Non, mais qui marchent. C'est pas parce que c'était au 19e siècle. Ben oui, c'était les élèves des grandes classes qui aidaient à faire leurs devoirs et à expliquer aux élèves des petites classes. Donc, pourquoi pas. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, c'est ce qu'on a noté aussi quand on a regardé les instructions officielles sur le lycée professionnel, sur la démarche d'investigation dans le lycée professionnel, où il est clairement expliqué que le prof, à certains moments, a le droit de faire du cours magistral, quoi. Voilà. Bon, donc on avait un petit peu discuté dans le groupe second degré. Bien sûr, que tout ne vient pas de la créativité et de l'inventivité des élèves, bien sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à l'ensemble du travail maintenant, l'ensemble du travail de la journée ? S'il n'y a pas d'autres réactions, on va s'arrêter là et on vous donne rendez-vous donc demain matin à 9h.